hors champ.
Je dis, je suis le seul à ne pouvoir parler vraiment de moi, et l'adjectif vraiment est important, ça veut dire qu'au fond, je ne suis moi-même qu'une sorte de collection d'images qui me sont renvoyées en miroir par la société, par mes lecteurs, et ce sont donc eux qui ont la vérité sur moi. Je suis en quelque sorte, moi en tant que moi-même, une espèce de zone extrêmement opaque ou fuyante d'opacité, de méconnaissance de moi-même.
Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ, ce soir, troisième émission consacrée à Roland Barthes. Avec vous, Éric Marty, vous avez établi les œuvres complètes de Roland Barthes. Vous avez fait un travail absolument remarquable, non seulement d'établissement de ses textes, mais de dépliement aussi de la transformation du séminaire de Roland Barthes en des précis d'écriture. Vous avez écrit un texte bouleversant qui s'intitule « Le métier d'écrire ». D'abord, une réaction à ce que nous venons d'entendre de cette voix de Roland Barthes et de ce qu'il y dit.
Alors, il y a évidemment le timbre même de sa voix qui est toujours pour moi pas seulement émouvant, mais aussi significatif, d'une forme de précision, d'une forme d'articulation de la langue, une parole particulière. C'est toujours un français et une langue que j'aime beaucoup entendre, et c'est la langue d'un mort. Mais il y a aussi ce qu'il dit, en effet. Et ce qu'il dit, c'est une chose qui, aujourd'hui, on entendrait difficilement. Aujourd'hui, tout le monde consiste dans son moi. Il y a une sorte d'invraisemblable étalage des identités, des moi. Les écrivains, maintenant, s'intéressent à eux-mêmes. Ils se mettent à consister comme personne. Leurs petites histoires deviennent tout d'un coup des choses très importantes. Eh bien, il était un temps où, quand on était un intellectuel, un écrivain, eh bien, effectivement, on était dans une sorte de désordre profond de sa propre subjectivité. Il n'y avait pas cette espèce de tentation, d'aspiration à consister, mais au contraire, peut-être à se déconstruire. Et c'était peut-être mieux, non, de cette époque, justement, où il n'y avait pas ce remplissement du moi. Donc, voilà, j'entends ça aussi. J'entends aussi, donc, une voix et aussi une époque qui traverse ce propos.
Comment avez-vous rencontré Roland Barthes ?
Je l'ai rencontré à l'occasion de la soutenance de thèse de ma chère tante Noëlle Châtelet, l'épouse de mon oncle, en fait, François Châtelet, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui a beaucoup compté pour moi dans mon enfance, qui était un personnage très, très important, très séduisant.
Dionysiaque,
absolument. Un côté Périclès, un côté, bref, ça qui était une sorte de philosophe qui avait une présence très forte. Et donc, Noël, sa femme, a soutenu sa thèse avec Roland Barthes, avec Gilles Deleuze, avec Nikos Poulantzas. Et j'étais très jeune, j'avais 18-19 ans, et familialement, je suis allé écouter ma tante soutenir sa thèse. Et c'est à cette occasion que, lors d'une pause ou à la fin de la thèse, j'ai parlé avec Barthes et il m'a invité à assister à son séminaire. Et puis nous nous sommes revus, enfin, une amitié très forte, très importante pour moi, très constructrice et constitutive peut-être de ma propre vie, s'est nouée à ce moment-là, donc en 1976.
Alors expliquez-nous les séminaires, parce qu'il y a eu plusieurs lieux où Roland Barthes faisait ses séminaires et il a inventé une forme de dialogue avec ses étudiants, renouvelant peut-être par là Le dialogue platonicien.
Oui, il y a eu, en effet, avant le Collège de France, puisque je l'ai connu avant qu'il ne commence ses cours au Collège de France, il y avait donc le séminaire, je dirais, historique, qui est le séminaire de l'École des hautes études, qu'il a commencé dans les années 60, et qui était un lieu à la fois d'élaboration théorique très importante. Il a eu de nombreux disciples, de nombreux auditeurs, les premières générations finalement des Jacques-Alain Miller, des Jean-Claude Milner, des Pierre Bergugno. Enfin, il y a eu un tas de gens qui sont passés par ce séminaire et qui ont pas seulement appris, mais qui ont aussi peut-être découvert une forme de parole, de pensée J'étais très, très, très frappé, notamment par le témoignage que Jacques-Alain Miller avait donné de ce séminaire où Barthes, chaque jour, chaque semaine, chaque séminaire, déconstruisait le réel pour mettre en évidence qu'il était fait de semblants et de simulacres et comment la linguistique, la langue, la sémiologie devenaient une arme absolument fantastique d'élucidation du monde.
Il y avait Barthes et il y avait Lacan.
Il y avait Barthes, il y avait Lacan.
C'était pas mal comme un paysage intellectuel voilà, pour pouvoir se nourrir.
Tout à fait. Et je crois que là, il y a un phénomène générationnel qu'il faut évidemment, qui est étudié, mais qu'il faudrait vraiment repenser de manière très forte, de contact, pas seulement de contact théorique, de contact intellectuel, de contact physique, personnel avec ses maîtres, qui étaient des gens tout à fait disponibles, ouverts, accueillants. Même si un Lacan pouvait paraître quelqu'un d'un peu aristocrate dans ses manières d'être, néanmoins, c'était quelqu'un qui a senti combien la génération qui venait était importante pour lui. Je crois que ce qui est vrai pour Barthes, pour Foucault, pour Deleuze, pour Lacan, c'est comment, finalement, leur trajectoire a été entièrement modifiée par la rencontre avec la génération dont je suis un peu biographiquement à la fin, puisque je suis né en 55, donc la première tête de génération-là, ce sont des gens nés en 43, 44, 45. Et moi, disons que j'apparais un peu comme à la fin, cette espèce de comète. Et je crois que la trajectoire de ces intellectuels merveilleux qu'ont été les Lacan, les Deleuze, etc., n'aurait pas été la même sans cette rencontre décisive avec ces générations qu'ils ont accueillies de manière très, très généreuse.
Et d'ailleurs, vous parlez dans votre livre Le métier d'écrire beaucoup des relations amicales et très fortes, pas seulement sur le plan intellectuel, mais sur le plan aussi de la pure amitié entre Barthes et Deleuze.
Absolument, entre Barthes et Deleuze, entre Barthes et Foucault aussi, qui a été une amitié beaucoup plus, je dirais, mouvementée, puisque le caractère de Foucault suscitait peut-être parfois des petits séismes amicaux. Mais ils ont été très, très proches l'un de l'autre dans les années 60, et puis par la suite, bien sûr. Donc, en effet, il y avait pas seulement des œuvres qui se construisaient. Il y avait aussi des réseaux, des fréquentations, des façons de vivre, des lieux aussi, des lieux de rencontre, des lieux de passage,
des
lieux
des cafés, des restaurants.
Des cafés, des restaurants, des espaces sociaux, beaucoup plus ouverts, me semble-t-il, qu'ils ne le sont aujourd'hui. Peut-être est-ce moi qui ne vois pas les choses, mais en tout cas, il me semble qu'il y avait même les maisons d'édition, le bureau de François Val.
Qui
était l'éditeur de Roland Barthes au Seuil. Le bureau de Solers, qui était aussi un éditeur de Roland Barthes, puisque la collection telle qu'elle accueillait les œuvres de Roland Barthes. Ces lieux-là étaient des lieux de rencontres, de discussions, de présence, de croisements, de traversées, de circulation très, très grande. Donc, il me semble qu'en effet, il y avait l'amitié qui était très présente. Une amitié qu'il ne faut pas non plus, idéaliser, parce qu'il y avait des différences très importantes, me semble-t-il, entre leurs positions, mais il y avait néanmoins, je crois, des expériences historiques communes qui étaient déterminantes et qui faisaient que, quelles que soient les oppositions, les différences, il y avait un sentiment quand même d'appartenir à un même mouvement de l'histoire. Et c'est ça qui est peut-être fondamental. C'est pas seulement l'amitié, mais c'est l'amitié qui est nourrie par un sol historique très, très, très intense, très profond, et par des destins aussi institutionnels, disons, qui ont en commun d'avoir été des destins de marginaux. Barthes, Lacan, Deleuze, Foucault, malgré la gloire qu'ils ont pu connaître, ont tous été dans leur itinéraire de professeurs ou d'intellectuels, je dirais, dans des systèmes un peu marginaux par rapport à l'université, que ce soit justement l'école des hautes études, le Collège de France. Ça a été pour Deleuze, pour Foucault, Paris 8, Vincennes. Enfin, ça a été donc des gens qui ont eu en commun un certain rapport à la pensée, à l'écriture, à la conversation, à la rencontre, qui en effet faisait de ce milieu un milieu tout à fait merveilleux pour un jeune homme de 20 ans à ce moment-là. En effet, par l'accueil, par l'intensité des rencontres, par le sentiment de quelque chose en commun qui était important.
Alors parmi ces intellectuels, beaucoup ont été engagés, c'était même le modèle de l'intellectuel engagé, mais dans ce ciel d'idées, peut-être celui qui revendiquait le neutre comme principe, Roland Barthes, a été le moins en avant. Pourquoi ?
Alors, c'est pas tout à fait exact, parce que en fait, le neutre, c'est aussi une forme d'engagement qui permet, si on peut dire, de dégonfler les faux engagements ou les faux semblants. D'abord, Barthes a été quand même très engagé, ne serait-ce que par les mythologies qui sont son deuxième ou troisième livre qui paraît en 1957, où Barthes démonte, déconstruit la société française comme peu d'intellectuels l'ont fait à ce moment-là, à partir justement des mythologies profondes de la société française, dont il dégonfle en quelque sorte les semblants, et précisément, je dirais, par le neutre. C'est-à-dire que ce qui met en évidence, c'est la sursignification mythologique du quotidien, auquel il oppose une forme d'éthique, peut-être du neutre, qui viserait justement à défaire cette espèce de suffisance du sens dans lequel la société française, disons, s'épanouissait et ronronnait, en quelque sorte. Que ce soit dans des mythologies parfois très, très dures, très cruelles, quand il décrypte l'abbé Pierre comme figure justement de la charité qui s'oppose à la justice, et comment il met en évidence de manière assez comique, assez drôle, tous les signaux, je dirais, de cette charité que l'abbé Pierre incarne et arbore dans Paris Match ou dans toutes les discours mythologiques français, c'est un engagement cruel qu'on n'a pas retrouvé par la suite. On se rappelle quand même que Pierre Bourdieu, 20-30 ans après, faisait l'éloge de l'abbé Pierre, comme si c'était le summum de la pensée et de l'émancipation. Donc, je crois que par rapport au non-engagement relatif, disons, de Barthes, il faut être prudent. Je crois qu'il y a chez tout intellectuel des moments, des périodes, des époques. Je crois que l'engagement ne peut pas être un engagement professionnel à vie. Je crois que l'intellectuel a des choses à dire à un moment. Et puis, une fois qu'il les a dites, il doit, je pense, peut-être aller vers d'autres terrains. Et Barthes est allé, disons, de l'engagement qui avait une forme de violence très grande dans les années 60, à des formes très différentes d'un rapport de plus en plus compliqué à la politique, de plus en plus compliqué à la réalité sociale, sociologique, culturelle et politique de la France et du monde. Et à ce titre, je crois qu'il a voulu simplement exercer d'autres modes d'écriture.
Nous allons écouter la voix de Roland Barthes. C'était au micro de Étienne Laloux le 27 mai 1957. Il va définir le rôle critique de l'intellectuel.
C'est que je pense que c'est précisément le rôle de l'intellectuel dans notre société que d'avoir une conduite essentiellement partielle et partiale en même temps.
Est-ce que vous voulez expliquer ça?
Eh bien, si vous voulez, je pense que le monde se présente aux yeux du critique comme plein de positif, plein de positivité, et que la critique a précisément pour fonction d'opérer une sorte de traumatisme, de choc, du négatif, de la négativité. En somme, le rôle du critique serait sans cesse de faire de l'air dans le plein du monde, mais non pas forcément de faire du vide, si j'ose dire.
Je vais vous poser une autre question. Est-ce que ce mythe que vous nous représentez comme nous entourant, enfin comme une espèce de microbe qui est dans l'air même que nous respirons, est-ce que ce mythe, vous le considérez comme lié uniquement à notre société bourgeoise du milieu du XXe siècle, ou est-ce qu'il vous paraît lié plus ou moins à toute forme de société?
Ça, c'est une question très redoutable parce que, n'est-ce pas, un homme qui est engagé dans une époque ne peut pas sans grand risque assumer de penser toute l'histoire. Mais alors justement, moi, l'espèce de, si vous voulez, de rigueur et de faiblesse en même temps que je me suis imposé, c'est de ne pas essayer de penser au-delà de ma propre société, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas du tout ce qui se passera si la société change. Est-ce qu'une société sans mythe est impossible? Vraiment, je ne peux pas répondre à cette question, n'est-ce pas? J'ai accepté, une fois pour toutes, de me placer dans une nuit de l'avenir, mais dans une très grande lumière du présent, si j'ose dire.
Oui, alors c'est vraiment la position que Barthes adopte à ce moment-là, dans les années 50-60, qu'il faudrait peut-être d'ailleurs même pas nuancer, mais un peu compliquer. Barthes parle de la nuit de l'avenir et de la lumière du jour, c'est-à-dire qu'en réalité, il est réellement dans une position qui me semble assez juste, c'est qu'en effet, la société de l'avenir, puisque à ce moment-là, Barthes est en gros marxiste, enfin, une position marxiste, cette avenir, elle ne doit pas être pensée aujourd'hui. Elle ne peut être qu'au fond libérée par les forces matérielles qui seront les forces de la révolution, la transformation, mais vouloir la penser aujourd'hui, c'est la condamner à être aussi aliénée, aussi mystifiée qu'elle est notre présent. Donc de ce point de vue-là, Barthes a raison. Cela dit, Barthes est aussi en position, je dirais, un peu ambigu dans les mythologies, notamment dans ce très beau texte qui s'appelle « Le mythe aujourd'hui », à la fin de la postface aux mythologies. Barthes explique que, en fait, dans la période actuelle, l'intellectuel est pris par deux tentations. La première, c'est la position critique qui vient de déclarer, à savoir dissoudre le réel comme étant purement idéologique. C'est montrer qu'en fait, non, eh bien, la patrie, c'est un mythe, la liberté, c'est aussi un mythe, le droit, c'est aussi un mythe bourgeois, etc. etc. Donc, c'est déconstruire le monde comme fait de semblant. Mais il y a l'autre tentation, c'est aussi, face à cette espèce de destruction, presque de nihilisme critique, eh bien, de poser qu'il y a des choses qui, tout de même, ont une consistance. Et il appelle ça « poser le sens inaliénable des choses ». Et c'est Barthes appelle ça poétisé. Et il dit, au fond, aujourd'hui, nous sommes condamnés à la critique. La situation historique nous condamne finalement à mettre de côté la poétisation du monde, donc qui poserait que les choses sont, et d'adopter cette position purement critique qui pose que les choses ne sont pas, qu'elles sont des purs fantômes, des purs simulacres idéologiques. Eh bien, on pourrait dire que Barthes est passé de l'un à l'autre. Quand il décrit l'Empire des Signes, le monde du Japon, eh bien, il passe à la poétisation du monde. Il n'y a plus de critique du monde. Le Japon n'est pas analysé comme un système idéologique comme l'était la France dans les 50. Elle est posée comme justement dans un mode inaliénable. Les yeux japonais, en quelque sorte, ou la nourriture japonaise, ou le corps japonais, ou le monde des signes japonais, est posé dans sa dimension poétique et non plus critique. Et c'est là, peut-être, l'une des clés de votre question de tout à l'heure, à savoir Barthes engagé, pas engagé, je crois que Barthes a été d'abord très engagé, mais en même temps cet engagement lui apparaissait aussi comme un risque d'être précisément dans le négatif, comme il l'a dit, dans un pur négatif, et sans aller jusqu'à prévoir une société future, justement, en se refusant à vouloir construire peut-être l'avenir, eh bien il a voulu aussi dévoiler dans le présent des espaces habitables, des espaces de bonheur, des espaces de sens. Et par exemple, le Japon de l'Empire des Signes apparaît comme l'un de ces espaces où on cesse d'être l'intellectuel négatif pour apparaître comme l'intellectuel poète, l'intellectuel romancier qui dévoile justement peut-être l'être des choses et non plus le simulacre des choses.
Nous écoutons Roland Barthes, c'était dans Poésie ininterrompue, le 2 novembre 1975.
Il peut y avoir un moment où le désir soit désir précisément d'une coalescence ou d'une permanence ou d'un état qui n'est finalement pas pluriel. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même d'une sorte de pluralisme reconnu du désir, tout d'un coup, surgit peut-être le fantasme d'utopie qui ne soit pas plurielle, qui se réfère à des modes d'union, à des modes de coalescence ou à des modes au contraire d'exténuation mais de disparition quasi totale.
C'est-à-dire en fait le fantasme d'un pluriel qui deviendrait singulier, d'un présent qui deviendrait durable.
Oui, c'est ça exactement. Parce que, n'est-ce pas, là on joue sur des lignes extrêmement subtiles de la culture, de la philosophie, de l'éthique. Par exemple, je ne me sens pas la moindre affinité, toute proportion gardée bien sûr, en m'excusant pour cette comparaison, mais je ne me sens aucune affinité avec la sorte d'humanisme relativiste d'un Montaigne, par exemple. C'est pas exactement ça, c'est-à-dire que dans l'espèce de pluralisme que je cherche et qui me tient à cœur, il y a finalement toujours la tentation de limites un peu, de limites non spectaculaires, mais de limites, soit dans le sens d'une complétude inouïe, soit au contraire dans le sens d'une défection totale.
Oui, alors là, je crois que ça confirme un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur l'Empire des Signes, à l'instant sur l'Empire des Signes, à savoir cette évolution de Barthes ou cette nécessité qu'il a sentie d'affirmation aussi d'une positivité, de ne pas que la fonction intellectuelle comme justement celui qui déconstruit, qui démolit, qui critique, était insuffisante et même peut-être s'il restait seulement cela, peut-être même nuisible au monde. Barthes a été pas seulement dans le dévoilement d'espaces positifs comme le Japon, mais aussi dans un souci très important d'affirmation du désir et du plaisir et de sa place. Ça, je crois que ça appartenait aussi à une dimension éthique de l'intellectuel.
C'est peut-être lui, d'ailleurs, qui a introduit cette notion du plaisir du texte dans la scène littéraire du XXe siècle.
Exactement, à une époque, justement, où, dans les années 70, où règne à ce moment-là une sorte de terrorisme intellectuel extraordinairement réducteur, où quand même, malgré leurs qualités, beaucoup d'intellectuels sont peut-être fascinés, attirés vers un discours de domination et de pouvoir que telle idéologie comme le maoïsme ou autre leur donne. Eh bien, Barthes crée un peu, pas un scandale, mais en tout cas, crée une espèce, il fait de l'air, comme il disait tout à l'heure, il met de l'air dans le plein de l'idéologie de l'époque, gauchiste ou post-gauchiste, par cette notion de plaisir qui, comme on le voit, comme on l'a entendu, n'est pas du tout pour autant une vision un petit peu molle des choses. Barthes se distingue très très clairement justement du libéralisme humaniste à la Montaigne, hein, pour affirmer dans le désir ou dans le plaisir quelque chose de plus intense, de plus uni, de plus puissant qu'un simple, disons, hédonisme. Barthes se méfiait beaucoup de l'hédonisme comme une ou de libéralisme qu'une position de facilité. Et donc, Barthes, à ce moment-là, dans les années 73, 14, 15, etc., est dans le souci, dans la préoccupation très profonde de trouver, en quelque sorte, un discours du désir qui soit, justement, aussi libérateur et affirmatif qu'a pu l'être le discours de l'émancipation précédemment.
Et ça va être immortalisé par les fragments d'un discours amoureux. C'est voilà. Peut-être ça qui restera de la postérité de Roland Barthes.
Tout à fait. Alors, les fragments d'un discours amoureux, c'est aussi contre l'époque que Barthes l'écrit. Barthes, d'ailleurs, affirme qu'au fond, le discours amoureux est très seul. Alors, il y a beaucoup d'amoureux à l'époque, comme aujourd'hui, mais au fond, le discours amoureux, l'amour, la pensée amoureuse n'est soutenue par aucun discours. Car à l'époque, en effet, le discours, disons, de l'intelligentsia, c'est un discours sur le sexe, un discours de la libération des corps, un discours du schizo avec Deleuze, de je ne sais quoi avec tel autre. Mais le sentiment amoureux, lui, est, disons, délaissé en quelque sorte. Et Barthes pense que soutenir ce discours-là, soutenir un discours amoureux, ça n'est pas seulement, au fond, aller vers le sentimentalisme, ou c'est même pas du tout aller vers le sentimentalisme, c'est au fond une opération, je crois, d'écrivain et d'intellectuel qui a d'autres répercussions, d'autres ambitions que celle justement d'une dimension personnelle ou psychologique.
Alors, on croit que les fragments d'un discours amoureux sont une sorte de météorite dans l'œuvre de Roland Barthes, mais vous nous expliquez qu'en fait, ça a été préparé, anticipé très très longtemps, antérieurement dans l'œuvre, et notamment dans Sur Racine et Roland Barthes par Roland Barthes.
Tout à fait, je crois même qu'elle est anticipée depuis même avant, par le Barthes avant Barthes. On va publier au mois de mai l'album du centenaire, qui contiendra une grande partie de la correspondance de Barthes, et notamment dans les lettres de jeunesse, qui sont très très belles, qui sont peut-être la partie la plus belle de cet album, puisque c'est l'époque de l'adolescence puis du sanatorium où Barthes est absolument seul dans une position très 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 de très grande solitude et de très grande en même temps de très grande envie de très grand un rapport très intense à l'écriture. Eh bien, Barthes médite beaucoup justement sur le discours amoureux et certains passages, les fragments des discours amoureux se retrouvent dans certaines lettres, non pas des lettres d'amour, mais des lettres sur l'amour qu'il écrit en 42, 43, 44, 45. Et c'est fascinant de voir ça, de voir comment Barthes élabore une théorie de l'amour très, 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 très tôt. Très tôt. Et en effet, il s'exerce à penser l'amour, mais sous des modes un petit peu, je dirais, différents, sous couvert de Racine, par exemple, dans le Sur-Racine. Alors Racine est une sorte de prétexte et d'alibi pour précisément mettre en jeu l'aliénation amoureuse, le rapport d'aliénation amoureuse qui, pour lui, évidemment, est tout à fait constitutif de l'amour et du rapport amoureux. Mais d'autres textes, évidemment, sont aussi marqués par le sentiment amoureux qui est pour lui quelque chose de très, très fort, très intense et au fond, que je crois, dont Barthes peut se moquer dans le texte même quand il parle de Nous deux, la revue Nous deux, qui est un hebdomadaire qui n'existe plus, je crois, qui est un hebdomadaire pour femmes un peu délaissées du cœur, un courrier du cœur. Barthes s'amuse aussi à un rapport ironique par rapport au discours amoureux dans cette espèce de, je dirais, de fragilité profonde du discours amoureux. Mais justement, il investit ce discours amoureux en y voyant quelque chose d'essentiel, d'essentiel intellectuellement, d'essentiel éthiquement et d'essentiel existentiellement. Et je crois qu'il a tout à fait raison de faire ça.
Éric Marty, voici ce que vous écrivez dans « Mémoire d'une amitié », le métier d'écrire. « Quand, dans le train, je lirai fragment d'un discours amoureux, dont il est venu m'apporter mon exemplaire à la gare de Lyon le soir d'un départ en vacances pour l'Italie avec un ami, j'aurai l'impression de lire sans rien comprendre, comme si le livre était vide de sens. Et il en sera ainsi pour la plupart des textes et même pour la chambre claire. Ce qui me rend le livre cher, c'est qu'il soit venu me l'apporter lui-même afin que je l'aie pour me distraire pendant le voyage, comme il me le dit affectueusement alors que je monte dans le wagon. Les tout premiers exemplaires viennent juste de sortir de l'imprimerie. Je lui écrirai une longue lettre de Capri en luttant contre cette impression de vide. » Comment on comprend Roland Barthes et peut-on le comprendre? Et alors, comment faut-il faire si on peut le comprendre?
Là, en fait, cet sentiment de vide, il est lié peut-être à une expérience biographique, c'est d'être l'ami de l'écrivain. D'être ami avec l'écrivain, avec l'auteur, crée un rapport très particulier avec ses livres, qu'on ne consomme plus, je dirais, sur un mode intellectuel, mais qu'on perçoit, qu'on assimile, qu'on lit de manière très différente, dans une forme d'hallucination même de la personne à qui vous, avec qui vous êtes lié. Et donc, il me semble que toute la période où j'étais très proche de Roland Barthes, je le lisais mal, ou je le lisais, disons, de manière non intellectuelle, non investie. Je le lisais, au fond, comme je parlais avec lui, dans une forme de... d'un rapport plus affectif que réellement intellectuel. C'est donc comment lire Roland Barthes? Je crois qu'il faut le lire comme un écrivain, mais pas seulement comme un écrivain. Il ne faut pas seulement, je pense, se laisser aller au plaisir du texte, même s'il est fondamental. Je crois qu'il faut le lire aussi historiquement. Il faut le lire aussi politiquement. Il faut aussi le lire comme il l'a, je pense, voulu, comme un très grand penseur des signes, comme celui qui, au fond, nous dévoile le monde comme un monde de signes. Et je crois qu'au fond, l'intellectuel, l'écrivain, le penseur, le philosophe, peu importe le nom, c'est celui qui, au fond, a comme fonction de nous dévoiler le monde. Eh bien, je dirais que Barthes a eu cette mission, cette vocation, cette aspiration à nous dévoiler un monde comme monde de signes, de mauvais signes parfois, comme il le fait dans la mythologie, de magnifiques signes dans l'Empire des signes, ou comme des signes mystérieux, énigmatiques, comme dans la chambre claire avec la photo, où il nous montre que la photo est un espace, en effet, de signes, avec le punctum, qui dans la photo nous pointe, nous dévore, nous touche, et dans le fameux « ça a été », qui est l'émanation même de la personne photographiée présente dans l'image photographique. Donc ce dévoilement du monde, je crois que c'est la grâce de l'écrivain et du penseur, c'est cette façon qu'il a d'ouvrir le monde à sa manière. Et pour Barthes, ça a été au fond de montrer que le monde est fait, en effet, d'un agencement, d'un dispositif de signes, et qu'il faut savoir lire.
Nous allons l'écouter au micro de Jacques Chancel. C'était le 17 février 1975. Il va parler de la puissance de l'acte d'écrire.
Oh, j'accorde une puissance énorme à l'acte d'écrire, mais comme toujours, l'acte d'écrire peut prendre différents masques, différentes valeurs. Il y a des moments où on écrit parce qu'on pense participer à un combat. Ça a été le cas, disons, dans les débuts de ma carrière d'écrivain ou d'écrivant. Et puis, peu à peu, se dégage finalement la vérité, une vérité plus nue, si je puis dire. C'est qu'on écrit parce qu'au fond, on aime cela et parce que ça fait plaisir. C'est donc finalement pour un motif de jouissance qu'on écrit. Ce qui ne veut pas dire que dans cet acte de jouissance, on ne rencontre pas d'autres motivations et disons qu'on ne rencontre pas d'autres débats et qu'on ne rencontre pas tout simplement les autres.
Mais l'acte d'écrire est-il le prolongement de l'acte de penser ?
Or, non seulement le prolongement, mais peut-être même il n'en est pas séparable. Peut-être que la question que vous posez est très, très importante, ça serait assez compliqué d'y répondre, mais d'abord nous savons bien qu'en fait, on pense toujours avec du langage, qu'on pense en parlant, qu'on parle en pensant, qu'il n'y a pas de pensée préalable au langage qui est en nous, finalement, et par conséquent, et en plus, dans certains cas, comme le mien, penser est immédiatement lié à une forme que je, si je puis dire, je visualise déjà comme une forme écrite, voyez-vous. C'est, au fond, j'ai tendance, et c'est peut-être un peu ambigu, mais j'ai tendance à penser par phrase, disons, et non pas à penser par pensée. Et c'est en cela que peut-être... ma situation est un peu difficile à repérer. Je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un penseur, je ne suis pas non plus peut-être tout à fait un écrivain comme on l'entendait il y a 50 ans. Je vais de la pensée à la phrase et réciproquement.
Oui, alors Barthes dit effectivement...
je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas.
Je ne suis pas, je ne suis pas, mais il dit aussi penser c'est écrire, écrire c'est penser. Donc il y a une sorte de caractère indissociable de l'acte d'écrire et de penser. Moi j'ajouterais ceci, c'est que pour Barthes, il me semble, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, que pour lui, vivre c'était aussi écrire. C'est-à-dire que c'est pas seulement au fond que penser c'est écrire ou qu'écrire c'est penser. Ça, c'est une idée à somme toute assez pas banale, mais en tout cas assez évidente. Mais il y a plus. Il y a plus, c'est ça qui m'a... C'est pour ça que j'ai appelé mon livre, d'ailleurs, Le métier d'écrire, en pensant au livre de Pavès, Le métier de vivre. C'est que pour Barthes, au fond, vivre, c'était écrire. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais, moi, qui avais à ce moment-là 20, 21 ans, 22 ans. C'était quelqu'un qui, dans ses gestes quotidiens, dans sa façon d'être, de s'habiller, de manger, de parler, de marcher, était constamment
de
dans
se taire.
De se taire, parce qu'il était très silencieux.
Parce que vous expliquez que souvent, vous vous trouvez en tête à tête avec lui et il garde le silence.
Voilà.
Il n'est pas question de briser ce silence parce que ben, il est en train de penser.
Voilà, ou en train de vivre ou de ne pas vivre, en train d'être dans cette espèce d'espace étrange qu'est l'espace d'être là et de ne pas, et justement de ne rien laisser filtrer de sa présence. Mais en tout cas, c'était vraiment cette impression que, en effet, la vie quotidienne n'était jamais, je dirais, corrompue par le naturel, par le, je dirais, par l'évidence, par la trivialité de la réalité, que tout était pris dans une sorte de pellicule d'écriture et que c'était une vie écrite, au fond, et que le quotidien, donc, était pris dans des protocoles immuables, tracé, écrit, dessiné en quelque sorte, et qu'au fond, voilà, c'est ça qui me troublait beaucoup, qui me fascinait, moi qui n'étais rien à ce moment-là.
Non, mais c'est très impressionnant dans votre bouquin comment vous allez faire partie de l'intimité de la figure, entre guillemets, du grand écrivain, car Roland Barthes, quand vous le connaissez, même si vous êtes très jeune, il est déjà très reconnu.
Tout à fait.
Et puis, il va vous laisser rentrer dans cette intimité. Vous y arrivez à petits pas comptés.
Oui.
Et il y a des rituels. Mais dans ces rituels, il mange tout ce qui arrive devant lui, tout ce qui lui arrive, soit corporellement, sensoriellement, auditivement.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'impression, c'était d'être finalement avec quelqu'un qui était dans son corps même et dans sa façon d'être même, une sorte de machine à absorber et à produire du signe, de l'écriture, et qu'il y avait toujours quelque chose au fond de la fois d'abstrait sensuel comme peut être l'écriture, c'est-à-dire de la fois donc de très très dessiné comme le sont les traces, les mots, les caractères d'écriture, et en même temps abstrait parce que absorbant au fond tout ce qui, les mauvaises vibrations de la réalité, les salissures, les mauvais bruits, enfin tout ce qui vient finalement abîmer quelque chose de qui serait du pur langage. Donc il y a quelque chose qui me troublait beaucoup, qui était pour moi l'occasion d'être dans un rapport intense avec lui, d'être constamment aux aguets, attentif, vigilant, dans une sorte de trouble et d'attention extrême. C'était cette incorruptibilité, au fond peut-être, d'une présence qui maintenait, alors beaucoup par le silence aussi, et aussi par une forme d'économie des gestes, par une forme de très grande économie des gestes, par une forme de laconisme des gestes et de la voix et des mots, qui maintenait toujours une forme d'incroyable style. Voilà, c'était quelqu'un qui était constamment dans le style, un style d'existence parfaitement repérable, identifiable, qui faisait une forme d'unité très particulière.
Alors vous l'accompagniez toujours, aussi bien pour les séminaires que chez lui, dans son appartement à Paris.
Oui,
l'après-midi, vous aviez un travail en commun à faire, de répondre à des lettres,
de
rédiger des textes.
Il m'est arrivé un moment, quand, après la mort de sa mère, qu'il avait accumulé beaucoup de retard dans son courrier, de l'aider et d'être une sorte... J'étais donc, nous étions dans le même espace où lui travaillait à son bureau et moi j'étais un petit pupitre où je... répondait à des lettres invraisemblables venues du monde entier, de gens qui faisaient des demandes les plus curieuses qui soient. Et donc je faisais cela et j'étais une sorte d'apprenti dans un atelier d'un grand artisan. Et je le voyais donc fabriquer ses livres avec un espace de travail très très beau qui m'impressionnait beaucoup. Avec un dispositif très très précis, avec des instruments d'écriture très bien placés, avec toujours une très grande, là encore, une stylistique de la vie, pour reprendre l'expression de Michel Foucault, qui était tout à fait troublante. Et donc j'étais là, moi, à griffonner mes réponses à des lettres qui étaient adressées à lui, et tout en vivant donc à côté du maître, un peu comme on pourrait le faire par rapport à un maître zen ou à un peintre ou à un orfèvre, hein, et où, comme au Moyen-Âge, par exemple, j'imagine un jeune moine pouvait être avec un vieux moine, comme ça, l'observer. Et j'étais donc, voilà, c'était ce qui me frappait beaucoup, c'était une espèce de très grand style dans la façon d'être, et c'était aussi des soirées au concert, des soirées avec des amis, enfin toute la vie offrait beaucoup d'occasions d'être ensemble, et d'être ensemble dans des distractions, dans les modes d'être, chaque fois très 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 différents.
Comment fonctionnait son atelier d'écriture en quelque sorte? Parce qu'en vous lisant, on a l'impression, et en lisant d'ailleurs Barthes lui-même, qui avait une grande porosité entre la préparation du séminaire,
oui,
l'écriture de certains textes,
alors,
tout circulait en même temps.
Tout circulait en même temps. Alors, peut-être que les auditeurs pourront se rendre compte, puisqu'il va y avoir l'exposition de la BNF au mois de mai, ils verront, dans une espèce d'un très bel espace, ils verront le manuscrit des Fragments des discours amoureux. Et ils verront justement, peut-être, en découvrant les pages manuscrites ou les pages dactylographiées corrigées à la main ou dans les fiches, ils verront ce que je raconte là. Ils verront comment, ils verront l'espace matériel de la pensée se représenter sous leurs yeux par une incroyable élégance, je dirais, de l'écriture, mais aussi des corrections, des coloris, des façons d'orner et de construire la page, de la construire visuellement et comme un spectacle. Et donc, moi, j'étais donc à mon petit pupitre, je voyais comment Barthes travaillait avec tous ses instruments, ses stylos, ses agrafeuses, ses crayons de couleur, ses feutres, ses marqueurs, ses différents espaces. Et je dirais que cette multiplicité, je dirais, de la pratique d'écriture même que Barthes pouvait avoir, eh bien, on le retrouve dans le manuscrit. Et donc, c'est pour ça que je pense que la vision même du manuscrit de Fragments d'un discours amoureux sera pour les auditeurs qui iront à cette exposition un exemple, justement, du travail de Barthes.
Après la mort de Barthes, il m'est arrivé parfois de faire un même rêve. Dans ce rêve, j'apprends qu'en réalité, Barthes n'est pas mort. À peine l'ai-je appris que je me rends compte que je le savais déjà, mais que je l'avais oublié. Il vit, en effet, mais n'écrit plus. Il habite seul dans son petit appartement de la rue Servandoni et voit quelquefois des amis. Je me sens coupable d'être restée de si longues années sans lui faire signe. Je dois lui téléphoner. À l'appareil, je l'entends. Il est content que je l'appelle et propose qu'on se voie un jour sans préciser de date. Et plus tard, en entrant chez lui, je le vois. Il n'a pas changé. Simplement, il n'écrit plus. Je le vois, il semble si simple, presque dénué d'existence, un retraité qui mène sa petite vie jour après jour, sans presque jamais sortir. Ce rêve avait un effet tel effet de réalité qu'au réveil, il me fallut de longues minutes pour me rendre compte que tout cela n'était qu'une fiction. Vous continuez à rêver de Roland Barthes ?
Non, je ne rêve plus de Roland Barthes. D'ailleurs, peut-être j'ai peut-être pu écrire ce livre parce que je ne rêvais plus de Roland Barthes. J'ai écrit ce livre en 2005-2006, il est paru en 2006, donc Barthes est mort en 80, donc ça fait quand même mis plus de 20 ans avant de commencer à écrire ce livre. Et en effet, peut-être qu'il a fallu cesser de rêver pour pouvoir écrire, cesser d'être le jeune homme que j'avais été quand j'avais connu pour être à mon tour un adulte, un écrivain, quelqu'un qui avait des enfants, qui était une femme, qui avait une vie, bref. Et ça prend du temps.
De se déprendre de Roland Barthes.
Oui, se déprendre, oui. Enfin, le mot est peut-être un peu fort parce que j'ai toujours très, très attaché effectivement à lui. Mais en tout cas, en effet, de construire sa propre vie, son propre travail. Donc, j'ai écrit sur un tas de choses qui sont loin de Roland Barthes, aussi bien sur René Char, qu'aussi bien des romans que des essais de philosophie politique ou sur Sade, etc. Donc il y a plein de choses
sans oublier Jean Genet quand même.
Sans oublier Jean Genet, effectivement. Et donc voilà, il faut. Mais ce rêve que vous venez de lire, c'est un rêve qui avait beaucoup, beaucoup marqué, qui était un rêve très, très important, peut-être, comme un moment de, je ne sais pas, où on vit avec les morts, ce moment où on vit avec les morts, le temps posthume, où finalement, on continue finalement à dialoguer avec eux, et ce rêve était une forme de dialogue, comme peut-être ce livre a été une forme de dialogue avec lui.
Tout à l'heure, vous avez parlé d'un maître zen. Et à vous lire, à vous écouter, on a l'impression que c'était peut-être aussi un maître de l'éloge de la vie, d'une certaine façon.
Tout à fait. Je crois que ce qui caractérise Barthes, et c'est ça qui fait, à mon avis, peut-être ça, ce qui le distingue et ce qui rend son discours, pour moi, très, très, très fort. Aujourd'hui, justement, peut-être, où la vie n'a jamais été aussi détestée, où la vie n'a jamais été aussi menacée, aussi méprisée. Et bien, précisément, c'est l'affirmation de la vie, l'affirmation du désir, du plaisir. Et il y a quelque chose d'irréductible dans ce discours que Barthes a tenu. Et l'importance qu'il a eue de ne pas se contenter d'être dans la position de l'intellectuel critique, mais d'être dans une position qui soit aussi une position d'affirmation. Je crois que cette affirmation de la vie... Et très importante, il y a une phrase de Kafka que Barthes aimait beaucoup citer, c'est « Dans ton combat avec le monde, seconde le monde ». C'est-à-dire, au fond, dans ton combat avec le monde, qui est un combat naturel, il faut se battre contre le monde, ne détruis pas le monde. Aide le monde dans ton propre combat avec lui, soit du côté du monde, dans ton combat avec le monde. Je crois que c'est une phrase très importante qui vient de Kafka, que Barthes reprend à son compte, qu'il cite, qu'il répète. Et je crois que c'est vraiment là, dans cette phrase, toute l'éthique de Barthes qui est résumée.
Merci beaucoup, Éric Marty.
Merci.
Votre livre s'intitule « Roland Barthes, le métier d'écrire » et puis je rappelle que toutes les œuvres complètes que vous avez établies sont publiées en collection de poche aux éditions du Seuil, Roland Barthes, œuvres complètes. Roland Barthes, ça continue demain et après-demain. Merci à Élodie Royer, Corinne Amard, Julien Rosa, Cédric Châtelus, Anne Kobilac, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture.